C'était le dernier dimanche avant la grande messe, avant ce premier tour tant attendu depuis 5 longues années. Dernier dimanche qui divisa la capitale française en deux. À l'est, Hollande, qui réunit le peuple socialiste à Vincennes, à l'ouest, Sarkozy, rêvant de retrouver la concorde qui, en un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, liquida mai 68. Chacun s'adresse à son peuple de France, chacun s'inscrit dans la grande histoire tricolore, se serre dans la boîte à outils française. Ici, Chateaubriand et Péguy. Là, Blum et Mitterrand. Sarkozy s'en va même citer Malaparte, lorsque l'Italien écrit que les Français considèrent l'histoire comme un fait de la volonté des hommes. Alors, nous voici face à deux hommes qui prétendent écrire une nouvelle page d'histoire. Quelques stations de métro les séparent, et pourtant, dans près de 15 jours, l'un des protagonistes de cet étrange drame finira dans les poubelles de notre histoire. Nicolas Sarkozy joue la corde tragique. Il en est pathétique. S'il n'est pas élu, la France s'effondrera, l'humanisme sera enterré, notre civilisation disparaîtra. Notre manière d'aimer et de penser, dit-il, ne sera plus jamais la même. Drôle de président candidat qui prétend que sa défaite sera celle d'une certaine idée de la France, lumineuse, phare de l'humanité. L'enfant de Neuilly pressent que la Concorde sera peut-être son dernier grand meeting, que dans quelques jours, allez savoir, tout sera fini. Alors il se transcende, lance un appel à la foule, appelle à l'aide, le peuple de France, aidez-moi, l'homme seul face à son pays, face à son destin. Et pourtant, derrière l'obélisque de la Concorde, plane une ombre étrange. Une Marseillaise, chantée par Mireille Mathieu, Enrico Macias dans les bras de Faudel, la joie de Cécilia, et l'émerveillement d'un after Fouquet, il y a 5 ans déjà, sur cette même place de la Concorde. Sarkozy n'y échappera pas, il est le président sortant, le président décevant. Si, comme il le prétend, notre manière d'aimer et de penser est menacée, c'est bien lorsque l'amour s'exhibe dans la vulgarité, à Walt Disney ou ailleurs. C'est bien lorsque la pensée se meurt dans le mépris de la littérature ou dans le culte des mondes, furtivement glissée dans une poche de costume, Patek Philippe de préférence. Alors, frétillant d'impatience, on s'envole vers Vincennes pour assister à la performance de l'autoproclamé candidat du changement. Le changement, c'est maintenant. Avant l'entrée en scène du candidat, ce sont Aurélie Filippetti et Najat Vallaud-Belkacem qui sont priées de jouer les chauffeuses de salle. Deux femmes pour faire monter la tension érotique à quelques minutes de l'entrée en scène du candidat. On salive déjà à l'idée de la parité à la sauce hollandaise. Moins dans la dramatisation que Sarkozy, François Hollande semble habité par une certaine sérénité. La confiance règne, comme en témoignent les quelques kilos retrouvés. Et pourtant rien de neuf, rien d'innovant, rien qui laisserait entrevoir une prise à bras-le-corps des problèmes du pays. L'électeur raisonnable souffre en silence. Hollande, c'est une proposition par campagne. Au temps des primaires, l'embauche de 60 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale. Au temps des présidentielles, une tranche d'imposition à 75%. Merci, au revoir, à la prochaine et vive l'audace. Hollande peut ainsi dire qu'il est de gauche, qu'il est effectivement le candidat de l'opposition et donc du changement, et oui, c'est maintenant. Mais on a beau chercher, on a beau écouter, aucune lueur qui permettrait à la France de retrouver son éclat humaniste, romantique, résistant, que Sarkozy et quelques autres ont bel et bien contribué à abîmer. Ces deux meetings géants, chacun réunissant près de 100 000 militants, ont réussi à étouffer un peu plus cette campagne. Car le 22 avril, ce ne seront pas seulement le PS et l'UMP qui présenteront un candidat, mais 8 autres partis, bien décidés à proposer, inventer, participer à cette si précieuse démocratie française. Nicolas Dupont-Aignan, le soi-disant dernier gaulliste, ce nerveux chevalier en croisade contre l'euro ou contre Michel Denisot, on ne sait plus trop, eh bien il s'était battu pour organiser un débat entre les 10 candidats avant le premier tour. Bizarrement, 7 de ses camarades avaient accepté, 2 seuls refusèrent, Monsieur Francefort et Monsieur Changement, comme par hasard. France 2 a tout de même organisé un grand oral, l'un après l'autre, à la queue leu-leu, 2 soirées durant. Les candidats ont subi la foudre des questions du terrible David Pujadas, accompagné de ses 3 acolytes. Et, oh surprise, certains candidats ont des idées originales, des personnalités attachantes. On découvre, ahuri, que le monde ne se réduit pas à un duel Carla Bruni, Valérie Trier-Veller. Il y a ceux qu'on connaissait déjà, les prétendants à la troisième place, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. Après avoir rempli la Bastille, c'est Toulouse, puis la plage du Prado à Marseille, qui prirent la teinte rouge des lendemains qui risquent de déchanter. Mélenchon a réussi sa campagne, c'est indéniable. C'est ce qu'indique tant sa progression dans les sondages que la ferveur qui anime ses meetings. Certains sondages le placent même à 17% au premier tour. Le score d'un certain Jean-Marie Le Pen, un 21 avril 2002. À Marseille, l'enfant de Tanger a chanté son amour pour la Méditerranée et pour ces peuples du Maghreb qu'il considère comme nos frères. Mots d'espoir et d'amour si éloignés des bateaux sans cale réclamés par certains pour éloigner toujours davantage les rives jumelles de la Mare Nostrum. Tribien Trublion, le candidat du Front de Gauche, pourrait être ce dimanche la rouge surprise du 22 avril. Il est en tout cas celui qui aura réussi à freiner l'élan de la fille du Borne. En effet, Marine Le Pen paraît affaiblie, ce notamment depuis qu'elle a refusé de débattre avec le candidat du Front de Gauche. Elle axe sa fin de campagne sur ces trois I. Immigration, insécurité, islam. Nous lui répondrons, ineptie, idiotie, immondice. Trop jouer sur la peur, c'est Marine Le Pen qui finit par la ressentir. La grande peur lepéniste de voir son électorat, comme il y a 5 ans pour papa, avalé par un Nicolas Sarkozy toujours plus civilisationnel, travail, famille, patrie, mais aussi par un Jean-Luc Mélenchon, apte à emporter l'adhésion d'un monde ouvrier qui s'était trop longtemps échoué sur les rives de l'extrême droite. Marine Le Pen a beau en appeler aux invisibles, sa campagne axée sur la dédiabolisation n'a justement pas su rendre suffisamment invisible le trop lourd héritage frontiste d'un bal viennois à un père toujours présent. En 2012, avec ou sans Marine, le FN reste ce qu'il est, le parti de la peur, de la haine, de la mort. Passé les combats extrêmes, nous voici à l'étage de la raison. Comme le disait Jacques Chirac, notre maison brûle. Elle est inondée, asphyxiée, accidentée nucléairement. Et tout le monde s'en fout. Il faut dire que le petit jeu d'Eva Joly ne contribue pas à développer la conscience écologique des Français. De sa campagne, plus que manquée, on retiendra le passage du rouge au vert. Rien d'idéologique en cela, simplement un changement de lunettes. Eva Joly, c'est un peu la monture de l'échec. Oubliez l'écologie, mais oubliez également la dette. Plus de 1 000 milliards d'euros, c'est un peu trop. Bayrou en parle et il a raison. 5 ans qu'il attendait ce dimanche 22 avril, il en rêvait, tutoyait les sommets, se préparait à un second tour, Marielle de Sarnez, Premier ministre, et Henri IV ressuscité. C'est la fête. Dire que même Morin et Borloo avaient lâché l'affaire. L'autoroute du centre lui était grande ouverte. Raté, ça ne prend pas. Hollande et Sarkozy débordent, Mélenchon s'engouffre ici et là, et le candidat du Modem étouffe, dégonfle lentement, comme un aéroplane qui s'apprête à sortir tout en douceur du radar politique français. À dans 5 ans, camarade François. Si Bayrou se prépare à faire la marmotte pendant les 5 prochaines années, de nouveaux visages apparaissent, premier tour parfois rafraîchissant pour ces hommes et femmes politiques en herbe. L'extrême gauche voit double. Il y a la stricte Nathalie Arthaud, professeure d'économie, qui effraie plus qu'autre chose, tant sa crispation peut inquiéter, sa violence stalinienne suintée. A contrario, voilà Philippe Poutou, l'anticapitaliste qui respire l'authenticité, la légèreté, une forme de liberté. Être devant Pujadas, ça le fait chier, il le reconnaît, mais il y est quand même, un peu comme nous tous, finalement. Pierrot lunaire de la campagne, il incarne un programme de transformation radicale pour un monde résolument autre, résolument meilleur, monde de Poutou qu'il représente à merveille, utopie antisystémique d'une campagne trop capitaliste que ses sublimes vidéos de campagne nous laissent deviner. Sur un bateau, on aimerait être entre Poutou, justement, et Cheminade. L'aîné de la campagne, sage extravagant, qui prône la conquête spatiale, qui suppose le complot. D'ailleurs, Lyndon LaRouche est une invention des médias judéo-maçonniques, visant à nuire à Cheminade, notre Cheminade nationale. La City, elle n'existe tout simplement pas. Mais d'ailleurs, Cheminade l'Ancien, bien Cheminade lui-même est une créature envoyée par les Martiens, qui aspirent en secret à conquérir notre bonne vieille terre. Cheminade, il veut développer la chorale, partout, à la ville, à la campagne, en banlieue, de la musique avant toute chose, et la poésie triompherait dans la nuance, toujours la nuance. Décidément, la folie cheminadienne fait un bien fou. À la paire Hollande-Sarkozy qu'on nous promet pour dimanche prochain, on aimerait opposer une surprise française. Rouge sang ou bleu marine, orange amer peut-être, allez savoir. Les Français ont la possibilité dès dimanche prochain d'écrire leur histoire. 10 candidats pour 2 places. À quelques jours du scrutin, on se prend à espérer que tout reste ouvert. Et pourtant, la campagne est ainsi faite que l'insipide duel Vincennes-Concorde risque de se reproduire le 6 mai, avec comme seul point d'achoppement la personnalité d'un président sortant, bien trop mal aimé. Dommage pour la France, dommage pour Mars, dommage pour notre histoire. Pour gagner le 6 mai, il suffira de ne pas être Sarkozy. Si Nicolas S. y arrive, c'est qu'il est vraiment le meilleur. Sinon, bien, ce sera normal. Trop normal.